Bonjour à tous, vous êtes actuellement en direct de Studio Gaco, de l'IUT du littoral et de la Côte d'Opale de Longuenesse. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets culturels et pour cela, nous accueillons Nicolas Takoundouris qui va nous expliquer l'importance du jeu de société dans le monde actuel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Cindy.
Et nous avons également avec nous Jordan Duhaillon qui va nous décrire la représentation du football dans le monde de l'art.
Bonjour à tous.
Avant même que je finisse ma phrase, plus de 12 boîtes de jeux de société seront vendues. Ce jeu de société qui nous permet de nous retrouver, comme le montrent de nombreux festivals, tels que récemment la 4e édition de la Fête du Jeu à Chauvigny en Nouvelle-Aquitaine le 6 octobre, ou encore la 10e édition du festival à Chabanais en Charente le week-end des 19 et 20 octobre. Ces festivals sont marqués par l'accès à tout type de jeux et donc une ouverture à tout type de public.
Mais pourquoi ce retour à la mode ? Quelle est donc l'importance du jeu de société dans le monde actuel ?
On peut l'expliquer dans un premier temps avec l'idée de Fabien Pox, qui a démarré la course aux jeux boutique à Genasse près de Lyon. Pour lui, la prolifération des écrans, ce bulldozer qui a bouleversé le monde du jeu, à laquelle personnellement j'ajouterai la pression de la société et du monde du travail, fait que nous vivons dans un monde dans lequel l'individualisme prédomine. Le jeu de société devient alors un moyen de se retrouver et d'alimenter les liens sociaux nécessaires à l'être humain. On peut illustrer cela par l'apparition depuis 5 ans des bars à jeux, par exemple avec le projet d'ouverture d'un bar de ce type en début 2020 à Beauvais dans l'Oise.
On a également le développement des jeux coopératifs.
Effectivement, la fuite de l'individualisme et de la compétition est aussi marquée par le développement des jeux coopératifs, dont l'objectif est de s'unir face aux mécanismes du jeu. Encore récemment, lorsque l'on parlait de jeux coopératifs, la plupart ne savaient guère de quoi il était question. Pourtant, maintenant, on retrouve des jeux coopératifs élus régulièrement ces dernières années au Festival de Cannes Jeux de Société, avec Mysterium en 2016, que je vous recommande particulièrement, Unlock en 2017, et surtout cette année 2019 avec exclusivement des jeux coopératifs élus, The Mind en jeu de l'année, Mr. Wolf en jeu de l'année enfant, et Detective en jeu de l'année expert.
Unlock, que vous avez cité, est également un jeu d'escape game, n'est-ce pas ?
Tout à fait, on retrouve énormément d'escape games, jeux très à la mode en ce moment dont le but est de s'échapper en équipe d'une salle en résolvant des énigmes, adaptés en jeu de société. Ce qui permet de faire la liaison avec un autre aspect important du jeu de société, qui est l'apprentissage. Le jeu, comme l'illustre bien l'escape game et le jeu coopératif, permet d'apprendre le travail en équipe dont l'importance est non négligeable dans notre société.
Et il y a aussi des jeux de culture générale.
Bien sûr, on pourrait parler des jeux de culture générale comme le Trivial Pursuit, que personnellement je n'apprécie pas vraiment.
Ah !
Mais il existe aussi de nombreux jeux traitant notamment d'histoire. On peut citer Timeline, dont le but est de remettre des événements historiques dans l'ordre chronologique. Mais il est loin d'être le seul. De nombreux jeux de passionnés d'histoire existent, sans oublier le travail de mémoire, dans les jeux qui se basent là-dessus, ou même de manière générale, pour retenir les points de règle et les différentes mécaniques de jeu, ainsi que le travail d'analyse et de réflexion, que l'on retrouve beaucoup dans les escape games ou les jeux de stratégie. Le jeu de société est de plus en plus utilisé dans les classes, notamment chez les plus jeunes, pour apprendre.
On parle de l'ampleur du jeu une fois celui-ci produit, mais qu'en est-il de sa création en elle-même ?
En effet, la création du jeu a aussi une grande importance. On oublie souvent que le jeu de société est un moyen d'expression pour son auteur, au même titre que n'importe quel livre, qui fait appel à l'imagination, la créativité, pour parvenir à se démarquer parmi les milliers de jeux qui sortent chaque année. Et cela concerne aussi les illustrations dont on peut observer l'évolution ces derniers temps, et il s'agit alors de mettre en valeur les artistes pour lesquels il est rarement facile de vivre de leur art. Dans leurs jeux, auteurs et illustrateurs donnent bien souvent une part d'eux-mêmes, ou encore s'adaptent aux attentes, par exemple avec l'escape game, ou les illustrations de plus en plus travaillées. Et ainsi, le jeu de société est un reflet de la société, ce qui fait de lui une part intégrante de la culture de celle-ci. Voilà donc les raisons pour lesquelles plus de 700 boîtes ont été vendues durant ma chronique.
Merci Nicolas pour ce sujet qui est de toutes parts intéressant. On va d'ailleurs passer des personnes que nous avons interviewées à ce sujet.
Que pensez-vous des jeux de société ?
Je suis un grand fan des jeux de société. J'y joue plutôt souvent, donc j'apprécie beaucoup les jeux de société.
Et vous jouez à quel type de jeu ?
Alors avant tout le Monopoly, ça reste dans mon cœur. Et sinon je joue un peu à tout, des jeux de cartes, Uno et d'autres jeux, un peu de tout.
D'accord, vous participez des fois à des événements jeux de société ?
Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y participer, donc peut-être prochainement, à voir.
D'accord, merci Mathieu.
Moi de rien.
Transition.
Il y a à peine 4 mois, se finissait la Coupe du Monde de football féminin qui se déroulait en France. Cet événement était l'occasion de démocratiser ce sport chez les filles, car elle est souvent associée à une pratique exclusivement masculine.
Cependant, cette compétition n'a certainement pas été importante pour seulement cette raison.
En effet, cette compétition était d'autant plus importante pour d'autres personnes, comme des artistes qui ont voulu prouver que le football a sa place dans le monde de l'art, de toute forme possible. Bien que ce soit deux univers antagonistes, l'un étant lié aux capacités physiques, au dépassement de soi, à la compétition, etc., alors que l'autre est orienté vers l'imagination, le calme, cela ne veut pas dire que rien ne les rassemble, car ce sont tous deux des transmetteurs d'émotions. Certains ont alors profité de l'engouement de la Coupe du Monde pour dévoiler aux supporters la fusion du football et de l'art à travers des expositions.
Peux-tu alors nous apporter des exemples ?
En effet, c'est le cas pour le Forum de l'Hôtel de Ville du Havre qui a organisé une exposition exceptionnelle recensant 140 œuvres. C'est une étape importante car cette exposition, nommée Art et Sport, est la plus importante présentée en France jusqu'ici. Le maire du Havre, Jean-Baptiste Gastine, en est très fier et en profite pour féliciter les artistes tout en ajoutant que selon lui, il y a un côté artiste qui existe chez tous les sportifs. Le lien entre l'art et le sport est d'autant plus marqué que cette exposition est parrainée par la ministre des Sports. De plus, le maire ne prend pas cette exposition à la légère, car on peut remarquer la présence de Françoise Lemaître-Leroux.
En quoi est-elle connue pour les personnes qui ne suivent pas ce domaine ?
Eh bien, elle est connue comme une Rouennaise qui avait été choisie par Barcelone pour représenter les Jeux Olympiques en 1992. Enfin, elle est pressentie pour une exposition qui se déroulerait à Pékin en 2022 pour les Jeux Olympiques d'hiver.
Le football est-il représenté à travers d'autres formes artistiques que le tableau ?
Non, le football n'est pas représenté uniquement à travers les tableaux, mais il est aussi à travers d'autres formes artistiques, comme par exemple à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a lieu à l'Institut du Monde Arabe une exposition retraçant les étapes importantes du football dans le monde arabe, en partant de l'essor du football féminin en Jordanie jusqu'à la ville du Caire comme capitale du football. Ce sont 11 moments historiques qui sont racontés au moyen d'une scénographie. Par conséquent, nous pouvons dire que le football et l'art peuvent cohabiter et être deux passions communes. C'est le cas notamment pour Thomas Meunier, un footballeur professionnel belge évoluant au Paris Saint-Germain.
Quel est le lien concrètement entre le football, qui est son métier, et l'art lui-même ?
Il vit du football sans oublier sa passion pour l'art à côté. Il exprime ses deux passions à travers des expositions artistiques sur le thème du ballon rond qu'il organise lui-même. Par exemple, il a organisé une exposition dans le stade du club belge nommé Anderlecht. Ce stade s'est transformé en galerie d'art. On y trouvait des toiles, photos, peintures et œuvres d'art en tout genre autour du ballon rond.
Le joueur a-t-il un objectif particulier derrière cette exposition ?
L'objectif du joueur est que les gens du musée s'intéressent au foot et les gens du foot aillent au musée. De plus, cette exposition révèle du bon sens car lorsqu'elle prend fin, les œuvres présentées sont vendues et les bénéfices vont à Sport2Be, une association favorisant l'accès au sport à des enfants défavorisés. Enfin, il n'y a pas que le football qui intervient dans le monde de l'art, mais il y a aussi l'art qui intervient dans le monde du football. En effet, le célèbre trophée de la Coupe du Monde a été créé par l'Italien Silvio Gazzaniga.
Peux-tu nous faire une brève présentation de ce trophée ?
Eh bien, de la base, jaillissent des lignes qui s'élèvent en spirale pour s'ouvrir et recevoir le monde. Les silhouettes de deux sportifs, transcendées par la victoire, naissent de la remarquable dynamique de la base massive de la sculpture. Mais cette coupe n'est pas la première qui a existé. En effet, la toute première Coupe du Monde avait été créée par un Français, Abel Lafleur, en 1930. Elle était appelée la Coupe Jules Rimet, en hommage au créateur de la compétition. Cependant, ce trophée a connu un destin tragique. D'abord caché dans une boîte à chaussures durant la Seconde Guerre mondiale, il est conservé définitivement par le Brésil en 1970, suite à une troisième victoire dans la compétition. Elle sera alors exposée en 1983 à Rio de Janeiro, où elle sera ensuite dérobée.
C'est honteux !
Qu'est-elle devenue à ce jour ?
Eh bien, on ne l'a jamais retrouvée, il est donc supposé que l'or a été fondu suite à son vol. Pour terminer, je peux donc vous conseiller un livre intitulé « Sport et cinéma » réalisé par Gérard et Julien Camille. Ce livre décrit la façon dont chaque sport est représenté au cinéma.
Eh bien Jordan, je vous remercie pour ces précisions. Nous allons ensuite débattre sur ce sujet.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce livre, Jordan ?
Oui, bien évidemment. C'est un livre où les deux auteurs sont partis à la rencontre de sportifs qui ont une expérience dans le monde du cinéma. Et ces derniers ont parfaitement expliqué la manière dont ils devaient se tenir pendant les tournages. Par exemple, un sportif devait toujours mettre en avant ses émotions sur son visage pour laisser transparaître aux spectateurs leurs émotions.
Et que pensez-vous de ces joueurs qui sont pris pour le cinéma ?
Eh ben, je trouve que c'est intéressant parce que ce n'est pas des acteurs qui jouent un rôle, mais ce sont plutôt des sportifs qui jouent leur rôle. Le fait que ce soit des sportifs qui jouent leur propre rôle dans un film permet de montrer une face cachée du sport aux spectateurs. Par exemple, Pelé, qui a un film à son nom.
Et d'ailleurs, ils sont aussi pris pour des publicités, vous en pensez quoi ?
Eh bien, c'est un tout autre domaine, parce que là, ils ne sont plus eux-mêmes, ils sont plutôt un objet qui sert à vendre des produits.
Est-ce que vous pensez que la publicité donne une bonne image aux joueurs ?
Ça dépend quelle publicité, mais il est vrai que généralement, les sportifs font de la publicité dans des domaines qui leur correspondent, liés souvent au sport. Donc en soi, ça ne dégrade pas leur image, mais il est vrai que ça change, parce que habituellement, on les voit sur un terrain de foot.
La coupe qui a été volée, elle a été remplacée ?
Oui, effectivement, elle a été remplacée. Il y a un nouveau modèle qui a été fabriqué. Depuis, elle est sous totale sécurité, c'est-à-dire que même le pays qui remporte la Coupe du Monde a désormais une réplique et non plus le modèle d'origine.
Et puis, par rapport au cinéma qui est de l'art, on peut aussi remettre en question le côté artistique de la publicité.
Il est vrai que dans l'ensemble, les pubs ne peuvent pas être considérées comme de l'art. Mais il y en a certaines, comme par exemple celle de la petite robe noire qui est entièrement dessinée et animée, qui peut être comptée comme une pub artistique.
Et puis dans un sens, la publicité par affiche, il peut y avoir l'art du graphisme pour attirer le regard.
Donc dans un sens, les seules pubs qui ne sont vraiment pas artistiques sont les pubs où les marques se servent de la notoriété de personnes connues pour faire connaître leurs produits et qui ne cherchent pas plus loin que cette notoriété. Pour conclure, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à nous suivre. Je vous souhaite ainsi à tous une agréable journée.
À bientôt.
Au revoir.